et aux apôtres qui entourent la très sainte Vierge Marie, et demandons par l'intercession de la Vierge Marie de recevoir nous aussi l'Esprit Saint. Et vous particulièrement, mes bien chers amis, qui dans quelques instants allez recevoir la grâce du diaconat. Vous allez en effet recevoir l'Esprit Saint d'une manière toute particulière. Spiritus septiformis, disent les prières du pontificat. L'Esprit avec ses sept dons. Et puis, lorsque l'évêque va vous imposer la main et dire les paroles de l'ordre du diaconat, il vous dira « Accipe spiritum sanctum ad robo, ad resistandum diabolo et tentationibus eius ». Recevez l'Esprit Saint pour recevoir surtout son don de force contre le démon et contre toutes ses tentations. Et puis, dans l'instruction que l'Église met sur les lèvres de l'évêque, il est dit aussi que la grâce que vous allez recevoir va vous rendre fort pour combattre non pas contre les éléments sensibles, contre la chair, mais contre les esprits mauvais répandus dans le monde. Dirons-nous qu'aujourd'hui, la diffusion de ces esprits mauvais dans le monde n'existe plus? Je pense que plus que jamais, ces esprits malins, ces esprits pervers sont répandus dans le monde. Et donc, c'est à une véritable croisade que l'Église vous convie en vous donnant cet Esprit Saint, en vous donnant l'esprit de force, de combat, contre toutes les forces subversives qui sont dans ce monde, et particulièrement les forces de l'erreur. Et pour cela, vous allez recevoir des fonctions particulières, vous approchant de l'autel, vous approchant du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous pourrez même, au moins d'une manière extraordinaire, pouvoir toucher de vos mains. Vous allez recevoir l'étole qui signifie votre pouvoir de ministère. Vous avez désormais un ministère à remplir à l'autel, ministère tout particulier auprès du prêtre qui offre le sacrifice. Vous allez recevoir également la dalmatique qui est pour vous comme une armure que vous revêtez, armure de sainteté, dalmatica justitiae. Dalmatique de la sainteté. Oui, revêtez-vous de sainteté. Christum in duistis. Vous avez revêtu le Christ. Revêtez notre Seigneur Jésus-Christ. Et que désormais, dans votre comportement, dans votre attitude vis-à-vis de ceux vers lesquels vous serez envoyés pour prêcher l'Évangile, eh bien, vous montriez en vous les vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, l'évêque va vous confier les saints évangiles. C'est peut-être ce qui caractérise le plus l'ordre du diaconat. En effet, saint Étienne, votre modèle, a prêché notre Seigneur Jésus-Christ et c'est pourquoi il est devenu martyr. Et vous aussi, nous allons vous confier l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la révolution apportée par notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde, une véritable révolution. Révolution de sainteté, de sanctification, de résurrection des âmes, de sanctification des âmes. C'est l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il est venu faire, ce qu'il est venu réaliser, son œuvre d'amour, de charité, de rédemption, de glorification de son Père, de glorification de toutes les âmes au ciel. Et c'est à cela que vous allez être associés. C'est cela dont vous allez avoir la responsabilité vis-à-vis des âmes en recevant l'Évangile. Pensez que vous allez être des héros de l'Évangile. Vous allez continuer l'œuvre que notre Seigneur Jésus-Christ a commencée ici-bas. Quelle responsabilité! Et n'oubliez pas que, étant par le fait même des témoins de l'Évangile, devenant par fonction des témoins de l'Évangile, témoins de la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, témoins du de ce qu'il est la voie de la sanctification, la voie du salut. Eh bien, que veut dire témoin? Et que signifie témoin? Martyr. Martyr. Saint Étienne a été martyrisé parce qu'il a été témoin de l'Évangile. Et tous ceux qui, après lui, ont été martyrisés, ont été martyrs, témoins de l'Évangile. Ont versé leur sang pour l'Évangile, pour prêcher notre Seigneur Jésus-Christ. Alors vous, c'est à cela que vous êtes appelés, à être des témoins. Peut-être, qui sait, martyrs un jour, nous ne savons pas. Dieu seul le sait. Mais en tout cas, déjà, par votre témoignage, vous êtes des martyrs, témoins de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Soyez-le pleinement, soyez-le complètement, ne le soyez pas à demi, ne tergiversez pas sur la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, sur la vérité de l'Évangile, sur la vérité de son message, sur la nécessité de passer par notre Seigneur pour aller au ciel. Ce serait manquer au message qui vous est confié, ce serait manquer de charité vis-à-vis de ceux vers lesquels vous êtes envoyés. Ils attendent de vous la vérité. Ils attendent de vous que vous soyez des messagers de la vérité et non point des messagers de l'erreur. Et vous trouverez cette vérité dans l'Évangile. Alors remerciez Dieu de vous donner une telle fonction et demandez-lui de vous en donner les capacités, les vertus. C'est ce que nous allons demander tous ensemble, ici au cours de cette cérémonie. Vos parents, vos amis, vos confrères, vos prêtres surtout, qui vous entourent, vont prier pour que vous receviez vraiment l'Esprit Saint ad rebours, pour la force, que vous ne craignez pas les attaques des démons qui viendront. Le démon ne peut pas tolérer la vérité. Et elles viendront parfois plus subtiles que nous le pensons. Caché sous un aspect de vérité, caché sous un aspect de pasteur, eh bien vous dévoilerez l'erreur. Comme le disait Léon XIII à propos des francs-maçons dans son encyclique Humanum Genus, il faut leur enlever leur masque, il faut les découvrir, il faut les montrer, afin de protéger les fidèles dans leur foi, afin qu'ils ne soient pas trompés par ces messagers de l'erreur. Nous aussi, nous devons dévoiler ceux qui diffusent l'erreur afin de demeurer dans la vérité, afin d'accomplir notre tâche de témoin de notre Seigneur Jésus-Christ et de protéger les âmes dont nous avons la charge contre ces sentiers de l'erreur. Vous avez comme modèle Saint Étienne. Puissiez-vous aussi avoir dans vos yeux cette vision de Saint Étienne, la vision de notre Seigneur à la droite de Dieu, à la droite du Père. Cette vision de l'éternité, cette vision que l'Esprit vous donne et doit vous donner, puisque Spiritus scrutat profunda Dei, l'Esprit scrute les profondeurs de Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que Dieu? C'est Jésus-Christ, c'est la Sainte Trinité. Alors ayez devant vos yeux cette image, cette vision qu'avait Saint Étienne, qui est la vraie vision de l'éternité, qui est cette vision de ce que sera l'avenir de toute l'humanité, l'avenir du monde, la vision de la Trinité, pour ceux qui auront cru. Et puis, ayez aussi comme modèle et comme guide Saint Pidis. Vous êtes entré dans la fraternité consacrée à Saint Pidis, sous le patronage de Saint Pidis. Pourquoi Saint Pidis? Parce qu'il a été aussi, lui, un croisé, un témoin de l'Évangile. Et si aujourd'hui encore il est combattu, c'est parce qu'il a été le témoin de l'Évangile. Si on oublie son nom, si on ne parle plus de Saint Pidis, c'est parce qu'il a été justement un véritable martyr de la vérité, de l'Évangile. Il a combattu le bon combat de la foi. Alors suivons aussi ce modèle. Et Saint Pidis, et enfin, suivez particulièrement la Très Sainte Vierge Marie. Elle aussi, elle est reine des martyrs. Elle a été vraiment le témoin privilégié de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle est restée au pied de la croix, elle n'a pas eu peur. Elle a manifesté son amour pour son Fils jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême. Et bien que la Vierge Marie vous donne cette grâce. Et aujourd'hui, je voudrais, en terminant, évoquer ce qui se passe aujourd'hui entre les deux Notre-Dame, Notre-Dame de Paris et Notre-Dame de Chartres. À l'instant, probablement, où nous sommes ici, partent des légions de jeunes gens qui quittent Notre-Dame de Paris pour faire leur pèlerinage, pèlerinage de foi, pèlerinage de pénitence, pèlerinage de prière, admirable pèlerinage des croisés. De croisés qui n'ont pas peur en cette époque d'athéisme, cette époque de volupté, cette époque où Satan règne partout. Ces jeunes se sont levés et remplis de foi, remplis d'amour pour notre Seigneur et pour Notre-Dame. Ils ont résolu de marcher pendant 3 jours pour se rendre à Notre-Dame de Chartres, manifestant ainsi au monde entier la foi qui demeure encore dans ces jeunes âmes. Et nous, pendant ces 3 jours, nous les suivrons, nous les accompagnerons de nos prières, de nos sacrifices, de notre profession de foi à nous aussi. Et voyez-vous, ils sont persécutés, persécutés par ceux qui ne devraient pas les persécuter, persécutés parce qu'ils sont les témoins de la foi, c'est évident, rien que pour cela, car ils n'ont pas d'autre but dans ce pèlerinage. Ce n'est pas un pèlerinage politique, ce n'est pas un pèlerinage polémique, c'est un vrai pèlerinage de foi et de témoignage de la foi. Eh bien, comme il se doit, ils sont persécutés. Et ils sont martyrs, d'une certaine manière. Alors, joignons-nous à eux. Et n'ayons pas peur, comme eux aussi, de tracer notre chemin au cours de notre vie, de faire ce pèlerinage, cette croisade, pour aller de Marie à Marie, pour être avec la très sainte Vierge Marie, et manifester notre foi au monde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous particulièrement, que j'adresserai ces quelques paroles avant que vous receviez le sacrement de confirmation. Je sais bien que vous avez été bien préparé par vos parents, par vos prêtres et même par les séminaristes qui se sont occupés de vous aussi, par les religieuses qui ont pris soin de vous. Cependant, je voudrais insister auprès de vous pour que vous compreniez la grande importance du sacrement de confirmation. Car on ne reçoit le sacrement de confirmation qu'une seule fois dans sa vie. On ne le reçoit pas deux fois, une seule fois dans sa vie. C'est donc ce jour pour vous est très important. Vous allez, par cette cérémonie, recevoir justement une effusion plus grande du Saint-Esprit dans vos âmes, confirmant ainsi l'effusion du Saint-Esprit que vous avez reçue au jour de votre baptême. Pourquoi on appelle ce sacrement, vous voyez, confirmation. Ça veut dire que cela confirme la grâce que vous avez reçue au jour de votre baptême, par une effusion plus grande encore de l'Esprit Saint, c'est-à-dire du bon Dieu, car l'Esprit Saint est Dieu. Vous allez donc recevoir le bon Dieu d'une manière plus abondante dans vos cœurs pour être mieux préparé à vivre en bon chrétien, en bon catholique. Donc très important. Vous savez bien que lorsqu'étant enfant, bébé, vos parents et marraines vous ont apporté dans leurs bras à l'église pour la première fois. Tout petit, vous, peut-être, vous veniez de naître quelques jours avant. Aujourd'hui, malheureusement, on tarde trop à baptiser les enfants. Mais de mon temps, par exemple, moi-même, j'ai été baptisé le lendemain de ma naissance. Le lendemain de ma naissance, parrain et marraine ont porté à l'église. Et qu'est-ce que le prêtre a dit aux parrain et marraine qui nous représentaient? Les parrain et marraine n'ont pas parlé pour eux, parce qu'eux avaient déjà été baptisés, ils n'avaient pas besoin de répondre aux prêtres pour eux-mêmes. Ils répondaient pour nous, qui étions dans leurs bras. Le prêtre a demandé à nos parrain et marraine: qu'est-ce que vous venez faire? Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous demandez de l'Église? Quid petit, sabe ecclesia dei, a dit le prêtre. Qu'est-ce que vous demandez de l'Église de Dieu? Et nos parrains et marraines ont répondu, nous demandons la foi fidèle, la foi catholique, nous demandons la foi. C'est très important, c'est la chose la plus importante pour notre vie, demander la foi catholique qui nous sauve. Et justement, le prêtre a demandé alors à nos parrains et marraines, mais pourquoi demandez-vous la foi? Qu'est-ce que vous donne la foi? Et nos parrains et marraines ont répondu, la foi nous donne la vie éternelle. La vie éternelle vers laquelle nous marchons, vers laquelle nous sommes destinés, dans laquelle nous aurons à vivre pour l'éternité. C'est donc très important. Mais à ce moment-là, nous n'étions pas conscients. Nous étions trop petits pour savoir ce que l'on répondait pour nous. Et puis le prêtre a continué. Il a encore posé d'autres questions à nos parrains et marraines. Il leur a dit, est-ce que vous renoncez à Satan? Oui, nous renonçons à Satan. Vous renoncez à toutes ces œuvres, à tous ces scandales? Ah oui, nous renonçons à toutes les œuvres, tous les scandales de Satan, bien sûr. Et puis il a continué. Est-ce que vous croyez en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Ah oui, nous croyons, bien sûr. Est-ce que vous croyez en Jésus-Christ, son Fils unique, qui est mort, qui a souffert pour nous racheter? Oui, nous croyons. Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique? Oui, nous croyons au Saint-Esprit, à l'Église catholique. Tout cela, ils l'ont dit pour nous, qui étions bébés à ce moment-là, qui étions tout petits. Et maintenant, au sacrement de confirmation, vous êtes assez grand pour répondre vous-même et pour répéter ce que vos parrains et marraines ont dit pour vous le jour de votre baptême. Par conséquent, en confirmant la grâce que vous avez reçue le jour du baptême, vous devez aussi vous-même confirmer les paroles que vos parrains et marraines ont dites pour vous. Et dire aujourd'hui, oh oui, je viens demander la foi à l'Église, je veux la foi. Et je l'ai apprise dans mon catéchisme, maintenant je connais le credo. Tout à l'heure, dans quelques instants, après la cérémonie, vous allez vous lever et réciter votre credo. Réciter le Credo, réciter le Notre Père, réciter le Je vous salue Marie, pour montrer que vous avez la foi. Oui, je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, je crois en notre Seigneur Jésus-Christ, je crois dans l'Esprit Saint. Vous allez répéter ça devant tout le monde ici, vous-même maintenant, puis vos parents et marraines, vous-même. Tout le monde, toute l'assemblée va dire ses prières aussi avec vous, mais vous allez les dire pour vous-même. Très important, donc voyez le sacrement de confirmation qui confirme ce que nos parrains et marraines ont dit pour nous au jour de notre baptême. Et puis dans votre esprit, vous direz aussi, oui, je veux suivre Jésus-Christ, je veux renoncer au péché, je ne veux pas suivre Satan et les scandales de ce monde qui nous attire vers le péché. Je renonce à tout cela, je renonce. Je veux suivre notre Seigneur Jésus-Christ avec la Très Sainte Vierge Marie, notre Bonne Mère du Ciel, la Mère de Jésus. Je veux suivre Marie et Jésus pendant toute ma vie pour arriver à la vie éternelle. Et vous allez voir maintenant, dans quelques instants, la cérémonie que l'évêque va accomplir pour vous. L'évêque d'abord étend ses mains et dit une prière au Saint-Esprit, appelant tous les dons du Saint-Esprit. Il va nommer les sept dons du Saint-Esprit et vous allez répondre avec tous les membres de l'assemblée ici présents et les membres de la chorale. Amen, amen, amen. Oui, qu'il en soit ainsi. Que je reçoive tous les dons du Saint-Esprit dont j'ai besoin. Pour être bon chrétien, pour être bonne chrétienne, j'ai besoin de ces dons. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Et puis après cette prière, vous allez venir avec vos parrains et marraines. Vos parrains et marraines vont mettre leur main droite sur votre épaule droite. Eux restent debout. Vous vous mettez à genoux devant l'évêque. Et quand le parrain et la marraine mettent la main comme ça sur vos épaules, votre épaule droite, cela signifie qu'ils prennent eux aussi la responsabilité de vous aider dans votre vie chrétienne. Ils sont en quelque sorte les témoins de votre engagement, et puis s'efforceront au cours de leur vie de vous guider, de vous aider dans votre vie chrétienne. Et puis à ce moment-là, l'évêque va signer votre front du signe de la croix avec le Saint-Crème qui a été consacré le jeudi saint et dire les paroles du sacrement de confirmation. C'est à ce moment-là que vous allez recevoir l'Esprit Saint, que vraiment le bon Dieu va prendre possession de vos âmes d'une manière plus parfaite. Très important. Et vous allez rentrer à votre place en pouvant vous dire « Oui, j'ai vraiment reçu le sacrement de confirmation. Désormais, je me sens plus fort. Je sens que le Saint-Esprit m'aidera davantage pour garder mon état de chrétien, pour être bien fidèle à Jésus-Christ, fidèle dans les commandements que le bon Dieu me demande, fidèle à la volonté du bon Dieu. » Voilà ce que donne le sacrement de confirmation. Et puis après, quand le sacrement sera terminé pour vous tous, alors vous vous lèverez et vous ferez votre profession de foi. Vous réciterez le « Je crois en Dieu, le Notre Père et le Je vous salue Marie » devant tout le monde, devant vos anges gardiens, devant toute l'assemblée du ciel qui vous contemple et qui vous voit. Vous manifesterez votre foi comme vous devrez le faire au cours de votre vie, n'ayant pas peur. N'ayant pas peur des critiques, n'ayant pas peur de ceux qui se moquent, de ceux qui ont la foi. Devons être les successeurs des martyrs, les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ, et ne pas avoir peur de professer notre foi catholique et d'être courageux dans ces temps qui sont si difficiles aujourd'hui. Eh bien, nous devons être des soldats de notre Seigneur Jésus-Christ et être surtout des enfants de Marie. J'espère que vous avez chacun votre chapelet et que vous récitez le chapelet chaque jour pour demander à la Très Sainte Vierge de demeurer bon chrétien et bonne chrétienne. Elle a été remplie du Saint-Esprit, remplie du Saint-Esprit. Alors c'est par elle que vous allez recevoir cette grâce, parce que toutes les grâces nous viennent par la Sainte Vierge Marie. Aucune des grâces que nous recevons ne passe par la Vierge Marie. Vous voyez, à la Pentecôte, la Très Sainte Vierge était au milieu des apôtres. Et c'est par la Sainte Vierge que les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Et aujourd'hui aussi, rassemblés ici, c'est par la Vierge Marie que vous allez recevoir la grâce du sacrement de confirmation. Alors confiez-vous à la Vierge Marie. Si vous avez des difficultés plus tard, des ennuis, des angoisses, des obstacles dans votre vie chrétienne, prenez votre chapelet, priez la Très Sainte Vierge Marie, elle vous viendra en aide. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers amis, mes bien chers frères, cette fête de la Pentecôte nous rappelle l'anniversaire de la fondation de l'Église. Quel anniversaire! Quelle date mémorable! Tout ce qui avait précédé la fête de la Pentecôte dans l'histoire religieuse de l'humanité préparait cette journée extraordinaire de la descente du Saint-Esprit sur ceux qui désormais devaient prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de la venue de Dieu sur la terre, de sa mort sur la croix, de sa résurrection, de son ascension. Et en effet, en ce jour, entourant la Vierge Marie qui, elle, n'avait pas besoin de la Pentecôte, elle était déjà remplie du Saint-Esprit, et c'est même par elle que la grâce du Saint-Esprit va être donnée à ceux qui l'entourent. Il n'y avait pas seulement que les apôtres, il y avait aussi des disciples, puisque les actes des apôtres disent qu'ils étaient environ 120. Ainsi, par la Vierge Marie, l'Esprit Saint est descendu sur tous ceux qui étaient présents dans le Cénacle, et ils ont été transformés. Alors que peu de temps avant son ascension, notre Seigneur reprochait encore aux apôtres d'être des incrédules. Et sur le lieu même de l'ascension, les apôtres demandent encore à notre Seigneur « Mais quand restituerez-vous le royaume d'Israël ?» Ces apôtres étaient encore aveuglés. Ils croyaient encore à la restitution du royaume d'Israël temporel. N'avait pas compris que le royaume de notre Seigneur Jésus-Christ était un royaume universel, éternel, spirituel, temporel certes, mais par l'Esprit Saint. Et voici que par la descente du Saint-Esprit, leurs yeux s'ouvrent. Ils prennent contact avec Dieu d'une manière mystérieuse, mais d'une manière profonde, d'une manière réelle. Et je pense que pour essayer de connaître mieux la psychologie de ceux qui étaient dans le Cénacle et qui se sont trouvés ainsi transformés par la descente du Saint-Esprit, on ne peut mieux faire que d'examiner et de penser aux fruits du Saint-Esprit. On juge l'arbre à ses fruits. On peut juger de l'Esprit Saint qu'ont reçu ses disciples et les apôtres par les fruits du Saint-Esprit. Et quels sont ces fruits du Saint-Esprit? Bien, saint Paul nous les énumère. Ils sont au nombre de 12. 12 fruits du Saint-Esprit. On peut les regrouper en quelque sorte en 3 groupes. Les premiers, c'est la charité, la joie, la paix. Charité, joie, paix. C'est déjà le ciel. Qu'y aura-t-il d'autre au ciel? La charité. La charité qui nous unira à Dieu pour l'éternité. La charité qui produira dans nos cœurs une joie ineffable et qui produira également une paix qui ne finira pas. Ainsi, les fruits que les disciples ont éprouvés au moment de la descente du Saint-Esprit sont déjà une participation à l'éternité. Ils se sont trouvés en quelque sorte surélevés par la grâce du Saint-Esprit, par cette grâce surnaturelle, à une connaissance de Dieu, à un contact avec Dieu extraordinaire, qu'ils n'avaient jamais éprouvé jusqu'alors. Ils se rendirent compte que Dieu était tout, qu'ils avaient tout reçu de Dieu et que toute leur vie devait être orientée vers Dieu. Pour eux, ce contact avec Dieu eut l'effet d'une donation définitive pour eux. Ils étaient définitivement acquis à Dieu, à l'éternité, à la Trinité Sainte, par la présence du Saint-Esprit en eux. Désormais, plus rien ne pourrait les détacher de Dieu. Rien. Et ce seront précisément l'expression des autres fruits du Saint-Esprit, car ils ne sont pas encore au ciel. S'ils déjà ils ont une impression d'avoir approché Dieu d'une manière mystérieuse, d'une manière profonde, d'une manière extraordinaire, ils sont encore sur la terre. Et alors, quels seront les fruits du Saint-Esprit dans cette vie terrestre, dans ses contacts avec les événements quotidiens, avec les difficultés, les épreuves, les doutes, les hésitations, les angoisses? Eh bien, saint Paul énumère alors la patience, bénignité, bonté, longanimité. Voilà les fruits qui seront ceux, en définitive, de l'espérance, voyez-vous. Les yeux fixés sur le ciel, les yeux fixés désormais sur Dieu, sur le bonheur éternel qu'ils attendent désormais avec un espoir profond. Mute domine speravi non confundar in aeternum. En vous, mon Dieu, j'ai placé mon espoir et nous ne serons pas confondus. C'est bien ce qu'il devait se dire. Et alors, désormais, toutes les choses de la terre leur apparaissaient sous un autre jour. Ils n'y étaient plus attachés. Et alors, dans les difficultés, dans les souffrances, dans les angoisses, c'était ces dispositions de patience, de bonté, de douceur, de longanimité. Et n'est-ce pas cela que l'on rencontre chez les vrais chrétiens, chez les vrais catholiques? Ce visage de douceur, de bonté, de patience, de longanimité dans les épreuves, dans les difficultés, dans les soucis quotidiens. Et puis, ils n'étaient pas nécessairement devenus des saints. Les tentations les guettaient encore. Tentations de l'orgueil humain, l'orgueil de l'intelligence, l'orgueil de la raison, qui se révoltent contre la foi, contre cet aveuglement de la foi, contre cette obéissance que représente la foi, obéir à la révélation qui nous est donnée par Dieu. Notre esprit, notre intelligence doit se soumettre. Nous ne comprenons pas les mystères que le bon Dieu nous révèle, mais nous devons cependant accepter, adhérer à ces mystères de toute notre âme, de tout notre cœur. C'est une épreuve très dure pour notre intelligence, pour notre raison, une épreuve d'humilité. Et puis, il y a l'orgueil de la chair, cette chair qui veut toujours se révolter contre l'esprit, qui veut satisfaire ses désirs désordonnés, sa volupté, son intempérance. Alors quels seront les fruits de l'Esprit Saint devant cet orgueil, devant cette révolte qui est toujours, qui couve toujours dans nos âmes, qui couve toujours en nous? Eh bien, ce seront justement la foi, la modestie. Je dirais que la foi et la modestie, vous voyez, s'unissent parfaitement. Modestie dans la raison, humilité de notre raison devant la foi, modestie de nos intelligences. Nous sommes de petites intelligences, nous sommes au bas de l'échelle des esprits. Et si les anges sont soumis à l'intelligence de Dieu et à la vérité que Dieu leur enseigne, comment nous, pauvres humains, nous sommes, nous ne serions pas soumis, nous ne serions pas modestes devant Dieu qui nous révèle ses grandes vérités, ses grands mystères, mystère de la Trinité, mystère de l'incarnation, de la rédemption, mystère d'ailleurs dans la nature, mystère de la création. Nous sommes entourés de mystères. Eh bien, l'esprit doit se soumettre à la volonté de Dieu, à la vérité de Dieu. Voilà le fruit du Saint-Esprit en nous, la foi, la modestie. Et puis, la continence et la chasteté. Continence et chasteté, fruit du Saint-Esprit, pour modérer ces désirs désordonnés de la chair qui veut se révolter contre l'Esprit. Voyez comme Saint Paul, décrivant les fruits de l'Esprit, nous donne une image admirable de ce que sont devenus en quelques instants ces disciples de notre Seigneur, ces apôtres. Sont devenus, par l'effet de la descente du Saint-Esprit en eux, remplis des fruits du Saint-Esprit. Et alors le résultat pour eux, ce fut parler. Et cheperontokui. Ils ont commencé à parler. Et parler de qui? De quoi? Mais leur cœur était rempli de Dieu. Ils avaient en quelque sorte touché Dieu. Ils avaient presque fait une expérience divine de la connaissance de Dieu, cette science de la charité dont parle Saint Paul. Scientia caritatis Christi. Cette expérience les avait soulevés. Tout le reste disparaissait, encore une fois, pour eux, devant Dieu. Ils ont prêché Dieu. Ils ont parlé de Dieu. Ils ont chanté Dieu. Cantantes, laudantes, ils n'ont pas pu faire autrement que de chanter la gloire du bon Dieu, les grandeurs de Dieu, et de prêcher notre Seigneur Jésus-Christ, de prêcher l'Évangile. Voilà ce que nous enseigne l'Évangile. Voilà ce que fut la Pentecôte. Et ce furent nos pères dans la foi. Et ce sont eux qui nous ont enseigné de recevoir aussi l'Esprit Saint. Ce sont eux qui ont été chargés de nous communiquer l'Esprit Saint, particulièrement par la grâce du baptême. Nous n'avons pas suffisamment confiance, je pense, dans la grâce de notre baptême. Notre baptême a été notre Pentecôte. Ce n'est pas autre chose. Souvenez-vous, dans les Actes des Apôtres, il est bien dit que les disciples de notre Seigneur étaient baptisés du baptême de l'Esprit. Baptême de l'eau, mais baptême de l'Esprit, qui n'était plus que le baptême de l'eau, il était aussi le baptême de l'Esprit. Et l'Esprit Saint, souvent, à l'occasion des baptêmes qui étaient donnés par les apôtres, descendait visiblement sur ceux qui avaient reçu le baptême, manifestant ainsi la présence du Saint-Esprit. descendant dans ses cœurs, de ses cœurs préparés pour le recevoir. Viens nous aussi, nous avons été associés en quelque sorte à ceux qui se sont trouvés dans le cénacle par notre baptême, par la confirmation. Confirmation qui n'est que le complément de l'effusion du Saint-Esprit que nous avons reçu au baptême. Alors nous avons vraiment reçu l'Esprit-Saint. Est-ce que nous en avons vraiment reçu les fruits? Examinons-nous. Est-ce que vraiment nous avons conscience d'avoir reçu les fruits du Saint-Esprit? Est-ce que nous avons conscience vraiment d'être près de Dieu, d'avoir Dieu en nous, de connaître Dieu, de mesurer la charité de Dieu? Rappelons-nous le magnifique épître de Saint Paul que nous lisons si souvent à l'occasion de la fête du Sacré-Cœur, l'épître aux Éphésiens, dans laquelle Saint Paul décrit la hauteur, la profondeur, l'immensité de la charité de Dieu. Est-ce que nous avons conscience de cette charité de Dieu envers nous? Est-ce que nous vivons vraiment près de Dieu? Et par conséquent, est-ce que nous partageons la paix et la joie de Dieu dès ici-bas, par la présence du Saint-Esprit en nous, par l'effusion du Saint-Esprit en nous? Est-ce que nous participons aussi à tous ces fruits qui nous sont donnés pour marcher vers notre éternité, au milieu de toutes les difficultés de ce monde, au milieu de toutes les tentations de ce monde corrompu, de tous les obstacles qui se présentent à notre vie chrétienne, à tous les attraits du péché? Est-ce que nous vivons vraiment de ces fruits du Saint-Esprit qui sont la patience, la bonté, la douceur, la magnanimité, la grande longanimité? Combien il est bon de se rappeler ces choses. Tous les jours, peut-être, nous avons à exercer ces vertus. Ou alors nous nous révoltons devant les événements qui nous entourent. Nous nous opposons à la volonté du bon Dieu. Nous souffrons, comme nous souffrons aujourd'hui, dans l'Église et par l'Église. Est-ce que nous sommes dans ces dispositions de patience, de douceur, de mansuétude vis-à-vis des épreuves que le bon Dieu permet que nous ayons, même par nos frères? Et puis, est-ce que nous réalisons vraiment dans notre vie cette humilité de l'intelligence? Redigere omnem intellectum in obsequium Christi. Voilà la devise que nous donne Saint Paul. Ramener tous les esprits à l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ, in obsequium Christi. Ces intelligences qui voudraient se révolter, cette raison qui s'est fait adorer au moment de la Révolution française, adorer la raison humaine, contre la volonté de Dieu, contre la foi, qui demande à cette raison de se plier et d'obéir et d'accepter la révélation et toutes ses conséquences et tous les commandements de Dieu. L'homme se dresse dans son orgueil et il adore sa raison. Et est-ce que nous faisons aussi tout ce que nous pouvons pour que les fruits du Saint-Esprit, nous aidant à modérer les désirs de notre chair, qui elle aussi veut se révolter, qui elle aussi voudrait bien ne pas obéir aux commandements de Dieu? Est-ce que vraiment les fruits du Saint-Esprit agissent en nous pour vivre de la vertu de tempérance? Demandons aujourd'hui spécialement tous ces fruits ou à l'Esprit Saint, afin que nous vivions vraiment en catholique, en catholique. Est-ce qu'il y a eu une autre Pentecôte dans une autre religion? Je vous le demande. Est-ce qu'on n'a jamais entendu dire que l'Esprit Saint était descendu dans une autre religion que dans la religion catholique? Non, parce qu'il n'y a pas d'autre religion. Il n'y a qu'une religion, celle de Dieu. Il n'y a pas deux religions, il n'y en a qu'une. Celle que Dieu a fondée, celle que Dieu nous demande d'avoir, la sienne, la religion de Dieu, la religion divine. Et cette religion divine, c'est la religion de la Pentecôte. C'est celle de l'Esprit Saint, c'est celle de l'Esprit qui nous est donné par le baptême et par les sacrements et qui rénove complètement notre âme, qui ressuscite nos âmes. Et les met en contact avec Dieu pour qu'elle soit un jour en contact avec lui pour l'éternité n'y a pas d'autre religion. C'est pourquoi, devant cet esprit que nous constatons depuis le Concile Vatican II, nous sommes obligés de nous poser la question, est-ce que cet esprit est vraiment conforme à l'esprit de la Pentecôte? Est-ce que les fruits du Saint-Esprit se reconnaissent dans cet esprit qui est issu de Vatican II? Eh bien, je pense que malheureusement, nous sommes obligés de constater que non, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de nouvelle Pentecôte. On voudrait nous faire croire qu'il y a une nouvelle Pentecôte, qu'il y a une deuxième naissance de l'Église. Il y a eu la naissance de l'Église à la Pentecôte, au temps des apôtres, et puis il y aurait maintenant, à Vatican II, une deuxième naissance de l'Église, une nouvelle Pentecôte. Il n'y a pas deux Pentecôtes. Il n'y a qu'une Pentecôte, à laquelle nous devons être fidèles jusqu'à la fin des temps, à laquelle devons être unis tous ceux qui seront baptisés, tous ceux qui recevront les sacrements, tous ceux qui seront confirmés, tous ceux qui recevront les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ, seront unis à cet esprit qui est descendu à la Pentecôte sur les apôtres. C'est le même esprit, la même fidélité, avec les mêmes fruits du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je dirais qu'on peut faire le discernement des esprits par les fruits du Saint-Esprit, dans la mesure où l'on constate les fruits du Saint-Esprit dans une famille, dans une société, dans une personne, on peut dire que cette personne est vraiment le fruit de la Pentecôte du Saint-Esprit. Et elle a vraiment le Saint-Esprit en elle, tel que les apôtres l'ont reçu. Si au contraire nous ne trouvons pas ces fruits du Saint-Esprit, mais le contraire des fruits du Saint-Esprit, alors nous ne pouvons pas croire qu'il s'agisse vraiment du même esprit, de l'esprit de la Pentecôte. Et regardez un tout petit regard sur les derniers fruits du Saint-Esprit. Je vous ai dit que les derniers fruits du Saint-Esprit, tels qu'ils sont donnés par saint Paul, c'est pas moi qui les enseigne, c'est saint Paul lui-même. La foi, fides, modestia, continentia, castitas. La foi, la modestie, la continence, la chasteté. Dites-moi si, depuis le Concile Vatican II, ces fruits du Saint-Esprit sont plus abondants dans l'Église qu'avant. La foi. Constatons nous-mêmes que la foi disparaît. La modestie. Nous constatons au contraire l'orgueil des hommes plus fort que jamais. L'intelligence des hommes qui se dresse plus que jamais contre Dieu, avec ses droits de l'homme, cette révolte de l'homme contre les lois de Dieu. Dites-moi si la continence, si la chasteté est mieux appliquée et plus étendue depuis le Concile Vatican II qu'avant le Concile Vatican II. Et vous aurez répondu, vous-même, par vous-même. Ceci est très grave et très important. Nous voulons garder l'Esprit de Dieu. Nous voulons garder l'Esprit de la Pentecôte. Nous ne voulons pas trahir l'esprit de la Pentecôte, l'esprit que les saints apôtres ont reçu. Nous voulons le garder tel que nous l'avons reçu au baptême, tel que nous l'avons reçu au sacrement de confirmation, comme je vais le donner cet après-midi aux enfants qui vont venir ici, et que je le donne partout. Cet esprit est un esprit de foi, un esprit de modestie, d'humilité devant le bon Dieu, de dépendance de Dieu, dépendance de Dieu. Cet esprit nous découvre Dieu. Et découvrant Dieu, nous apercevons que nous ne sommes rien. C'est ce que dit saint Paul. Quid habes quod non recepisti? Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Et si vous avez tout reçu, pourquoi vous glorifiez-vous de ce que vous avez? Puisque nous avons tout reçu. Et il ajoute encore, si quelqu'un se croit quelque chose, comme il n'est rien, si quis pustat esse aliquid, cum nihil sit, comme il n'est rien, il se fait illusion. Et oui, nous ne sommes rien devant le bon Dieu. Nous lui devons tout, 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 tout. Plus nous approchons de Dieu, et plus nous le comprenons. Alors, notre esprit s'incline devant le bon Dieu, se sent dans la dépendance de Dieu, dépendance totale de Dieu. Or, actuellement, c'est le contraire que nous constatons dans la société, même dans la société chrétienne. Cet orgueil de l'homme, l'homme partout, l'homme, qui se fait un Dieu, la conscience de l'homme devant laquelle personne ne peut s'insurger, devant laquelle il n'y a pas de loi, il n'y a pas de vérité. Chacun se fait sa vérité, chacun sa religion, chacun sa pensée, chacun sa voie morale. Touchez pas à la conscience de l'homme. Mais qu'est-ce que c'est que la conscience de l'homme, sinon un miroir, le miroir de Dieu? Est-ce que Dieu ne serait plus l'objet de la conscience, l'objet du miroir qu'est la conscience? Et par conséquent, l'obéissance à la vérité qu'est Dieu, l'obéissance à la loi de Dieu, il n'y a pas d'autre solution. C'est là le problème de notre bonheur éternel, de notre vie éternelle. Alors soyons fermes dans notre foi. Cultivons les fruits du Saint-Esprit en nous pour demeurer catholiques, pour demeurer chrétiens, pour demeurer ceux qui sont unis à Dieu, ceux qui sont vraiment membres de la véritable religion, de la religion de Dieu. Nous le voulons, vous le voulez. Vous le voulez pour vos enfants, vous le voulez pour vos parents, pour vos amis. Et c'est cela qui a été justement le résultat de cette descente du Saint-Esprit sur les apôtres et chez Pierre. Ils ont parlé et on les a plus empêchés. Ils n'ont plus arrêté de parler jusqu'à la fin de leur jour, jusqu'à leur martyre. Leur martyre même était un témoignage de leur foi. C'était encore leur dernière parole. Le sang qu'ils versaient était leur dernière parole pour confesser la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ, la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. On a voulu les empêcher, on les a enfermés, on les a mis en prison, et on leur a dit, ne pêchez plus notre Seigneur Jésus-Christ, faites tout ce que vous voulez, mais ne parlez plus de Jésus. Taisez-vous sur le nom de Jésus. Ils ont dit, non possumus non loqui, nous ne pouvons pas parler, nous continuerons à parler. Ils ont continué à parler jusqu'à leur mort. Voilà la religion catholique, voilà les effets de l'Esprit-Saint. Voilà ce que nous devons être, ce que nous devons continuer ici-bas, être les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas être autre chose, et nous ne voulons pas être autre chose. C'est pourquoi nous n'acceptons pas ce nouvel esprit, cette nouvelle Pentecôte, cette nouvelle attitude qui nous font devenir des protestants. Or, le protestantisme, c'est précisément une révolte de l'homme contre Dieu, qui veut placer sa liberté, liberté de l'homme, de juger toute chose, en dehors de l'Église, refusant l'Église. C'est ça le protestantisme. Maintenant, cet esprit nouveau nous conduit au protestantisme, nous fait vivre selon l'esprit du protestantisme. Nous refusons cet esprit. Nous ne pouvons pas agir, ni penser, ni être des protestants comme des protestants. Nous devons rester catholiques. Voilà ce que cette fête de Pentecôte doit nous rappeler et nous aider à vivre. En union avec la Très Sainte Vierge Marie et par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, ce n'est pas sans raison que la Sainte Église demande à l'évêque de consacrer les saintes huiles en ce jour du Jeudi Saint. Nous avons eu l'occasion, au cours de cette retraite, d'évoquer la pensée de saint Thomas d'Aquin sur ce que sont en vérité les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Saint Thomas nous rappelle qu'il y a trois éléments fondamentaux dans la pensée et dans la définition des sacrements. Une référence au passé, dit saint Thomas, référence toujours vivante, toujours réelle, référence à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la cause de la grâce de ces sacrements, cause et source d'où découle la grâce du sacrement. Le deuxième élément est un élément actuel, un élément qui nous touche de près, qui touche toutes les âmes qui sont atteintes par les bienfaits de la rédemption. La grâce sanctifiante, ce don extraordinaire qui nous est fait par et grâce à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, troisième élément, saint Thomas, c'est la gloire. Car en définitive, pourquoi la passion, pourquoi la grâce de notre Seigneur dans nos âmes, pourquoi la présence du Saint-Esprit dans les âmes sanctifiées, c'est pour la gloire. Pour être un jour glorifié dans le ciel et partager la gloire de Dieu. Nous comprenons mieux alors pourquoi ce rapprochement de la consécration des saintes huiles qui servent essentiellement au sacrement avec cette préparation de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ, car nous sommes à la veille de l'immolation de l'agneau pascal, veille de la fête de la Pâque. Et c'est en cette soirée que notre Seigneur Jésus-Christ va fonder le sacerdoce, va par conséquent instituer cette continuation de sa rédemption, cette continuation de sa passion en faisant ses prêtres et en leur confiant les sacrements. Et notre Seigneur a voulu que ces sacrements, que sa grâce, que son Esprit Saint nous soit communiqué par des signes sensibles. Des signes sensibles auxquels il a donné ce pouvoir extraordinaire de communiquer la grâce. Et puisqu'il s'agit de la vie divine, il s'agit donc d'un élément mystérieux, sublime. On comprend alors pourquoi toute cette solennité pour consacrer ces saintes huiles qui vont être porteuses de la vie divine dans les âmes. Ces saintes huiles sont en effet employées dans presque tous les sacrements, et elles servent aussi même par l'institution de l'Église, alors, à la consécration. Elles servaient à la consécration des rois, des prophètes. Elles servent aussi à la consécration de ceux qui touchent de plus près la réalisation des sacrements, comme la consécration du calice, la consécration de la patène, la consécration de la pierre d'autel, consécration du temple de Dieu, de l'Église. Tout cela parce que ces objets ont aussi un caractère divin, ces objets aussi servent à la transmission de la vie divine en nous. Quelle merveille, quelle splendeur, quelle munificence de la part de Dieu de nous donner ainsi à travers toutes ces créatures sa vie divine. Et je voudrais insister sur ce qui est présent dans les éléments du sacrement. Certes, nous devons toujours penser à la passion de notre Seigneur, à son cœur sacré, ouvert, duquel a coulé le sang et l'eau, qui sont les sources de la grâce de nos sacrements. Mais c'est tout de même pour nous, actuellement, la grâce sanctifiante qui importe d'avoir dans nos cœurs, afin d'être agréable à Dieu. Car, hélas, il faut affirmer ces vérités de notre foi, ces vérités qui ont été affirmées d'une manière solennelle, dirait par saint Paul lui-même, dans son 13e chapitre à l'Épître aux Corinthiens, lorsqu'il fait cette magnifique description de la charité. Mais avant de dire ce qu'est la charité, saint Paul rappelle que sans la charité, nous ne sommes rien, ni qu'il sommes. Nous sommes des cymbales sonnantes qui ne signifient rien si nous n'avons pas la charité, si nous n'avons pas la grâce en nous. Nous pouvons donner notre corps à brûler, nous pouvons donner tous nos biens, nous pouvons faire tous les actes que nous voulons, les plus sublimes, les plus extraordinaires, nous donner nous-mêmes. Tout cela ne sert de rien, ni qu'il est, s'il n'y a pas la charité, s'il n'y a pas la grâce en nous. Pourquoi cela? Parce que désormais, après le péché originel, seul Dieu peut rendre gloire à Dieu. Seul notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, incarné, venant en nous, prenant possession de nos âmes, par lui-même, par son esprit et par la présence du Père, par la présence de la Sainte Trinité, peut chanter la louange du bon Dieu et être agréable à Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien. Sans notre Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons plus rien. Pour la gloire du bon Dieu. Ainsi il l'a voulu, ainsi il l'a décidé. D'où le prix de la grâce, d'où la nécessité de la grâce. Alors nous qui avons eu ce grand, immense privilège de recevoir la grâce de notre Seigneur au jour de notre baptême, et d'avoir fait sans doute tous nos efforts pour la garder, cette grâce, pour garder en nous la présence du Saint-Esprit, garder en nous la présence de Dieu, afin d'être agréable à Dieu, afin que tous nos actes soient non seulement agréables, mais méritent aussi, méritent la vie éternelle, méritent la gloire, non seulement pour nous, mais pour les autres. Alors, estimons ce don précieux. Si chires donum Dei,
Dis notre Seigneur à la Samaritaine si tu connaissais le don de Dieu. Et notre Seigneur, donne une image de ce qu'est ce don de Dieu. C'est une source, une fontaine vivante qui irrigue nos âmes et qui donne ainsi naissance à toutes les vertus chrétiennes, à tous les dons du Saint-Esprit, aux béatitudes, à tout ce qui fait fleurir nos âmes et qui les rend agréables au bon Dieu. Cette image de la fontaine vivante me rappelle des souvenirs du désert. Ils ont eu l'occasion parfois de visiter des oasis, on comprend mieux l'image de notre Seigneur. Dans un désert intégral, où rien ne pousse, où aucune herbe ne vient au jour, on trouve tout à coup, comme par miracle, quelques hectares de terre où l'on voit surgir ces fontaines, bien souvent sur lesquelles on a posé des pierres afin qu'elles ne soient pas trop jaillissantes. Mais l'eau coule en abondance, une eau claire, limpide, qui irrigue par des petits canaux tous les environs de cette source. Et des merveilles poussent, palmiers, orangers, mandariniers, du blé, du maïs, tout pousse à souhait dans ce désert intégral où aussi loin que la vue peut s'étendre, il n'y a rien, rien, rien. Eh bien, je pense que cette image que notre Seigneur donne signifie bien ce que sont des cœurs qui ont reçu la grâce du bon Dieu. Cette eau, cette source, cette fontaine de vie qui jaillit vers le ciel produit en nous toutes ces vertus chrétiennes dont nous avons besoin et qui nous préparent à la gloire du ciel. Pour nous, mes bien chers amis, pour nous prêtres surtout, qui devons utiliser souvent ces signes sensibles que notre Seigneur a institués pour conférer la grâce aux âmes, ayons un profond respect, une profonde dévotion pour toutes ces institutions que notre Seigneur a faites, afin de donner véritablement la grâce aux âmes. Et préparons aussi les cœurs, afin qu'ils les reçoivent dignement, et qu'ils le reçoivent cette grâce en abondance. Car s'il est vrai que ces signes produisent leur effet, comme disent les théologiens, ex opere operato, c'est-à-dire par eux-mêmes, il n'en est pas moins vrai que les dispositions des fidèles comptent aussi dans l'abondance des bienfaits qui sont donnés, dans l'abondance de la grâce qui est donnée. Meilleures sont les dispositions, plus le cœur est ouvert, plus le cœur est généreux, et plus la grâce du bon Dieu se répand en lui. À nous de les préparer. Et à nous d'affirmer justement cette vérité que là où il n'y a pas la grâce, rien n'est utile au salut. Ce sont des vérités qu'aujourd'hui on ne veut plus affirmer, parce qu'elles sont pénibles, on voudrait bien, on voudrait que toutes les âmes aient la grâce, évidemment, mais nous ne pouvons pas la donner là où il y a une opposition à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, là où il y a une opposition à la foi. On nous ferait croire à présent que tous les baptêmes qui sont donnés aux protestants, par exemple, sont tous fructueux. Je dis fructueux, même s'ils étaient tous valides, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas. Même si tous ces baptêmes étaient valides, là où il n'y a pas la foi, chez des adultes, par exemple, là où il n'y a pas la foi catholique, il y a un obstacle à la grâce. Le fait de refuser une vérité de notre foi est une opposition à Dieu lui-même, à l'autorité de Dieu lui-même, car c'est Dieu qui révèle. Nous opposer à Dieu empêche la grâce de venir dans nos âmes. Il en est de même pour un catéchumène adulte qui est en état de péché mortel et qui n'a pas eu la véritable contrition de sa faute. Demeurant dans l'état de péché mortel, il y a en lui un obstacle et pourtant le baptême est valide. Il aura le caractère dans son âme. Mais ce caractère ne sera fructueux que le jour où l'obstacle sera levé. Dès lors que la foi sera parfaite dans cette âme qui n'avait pas la foi parfaite, dès lors que le péché sera enlevé de cette âme pécheresse, eh bien la grâce abondera dans son âme. Mais s'il y a cet obstacle, le sacrement n'est pas fructueux. C'est une chose importante. pouvons pas aller à l'encontre des lois divines dans le domaine de la grâce. Ainsi Dieu l'a voulu. D'où le désir que nous devons avoir de préparer les âmes à la grâce, faire en sorte que toutes les âmes la reçoivent. Car sans la grâce, nous ne pouvons pas aller au ciel. La grâce, encore une fois, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos âmes. Et pour nous-mêmes, quelle leçon aussi, soyons toujours vigilants afin de demeurer en état de grâce. Et demandons au bon Dieu de nous donner tout ce dont nous avons besoin pour nous maintenir dans cet état de grâce. Demandons-le particulièrement à notre bonne mère du ciel, elle qui a été pleine de grâce, remplie de grâce par l'Esprit Saint, qu'elle veuille bien nous aider à demeurer dans la grâce de l'Esprit, dans l'amour de l'Esprit Saint, dans la charité, comme elle y est restée, elle, toute sa vie, et qu'elle a maintenant été glorifiée dans le ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers amis, mes bien chers frères, il nous semble encore entendre les échos de ce que nous avons entendu au cours de cette semaine sainte, en particulier Jérusalem, Jérusalem, convertere ad dominum Deum tuum. Est-ce que ces paroles adressées par notre Seigneur à la ville sainte, à Jérusalem, ne nous concernent pas? Est-ce que ce n'est pas un appel personnel que le bon Dieu nous fait? Convertissez-vous au Seigneur votre Dieu. Et nous avons vu tout au cours de cette semaine les douleurs, les souffrances de notre Seigneur. Nous l'avons entendu dire, anima mea tristises usquam mortem, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et puis nous avons entendu en quelque sorte les clous s'enfoncer dans ses mains, dans ses pieds. Nous avons vu le soldat percer son cœur et tous ses gémissements. Seigneur, je remets mon âme entre vos mains. Et puis voici que maintenant, ce sont des chants de louange, de gloire, de joie, de réjouissance. Quel grand mystère que notre Seigneur Jésus-Christ. Mystère qui nous dépasse. Mystère vraiment divin. Et en même temps, mystère qui nous concerne tous. Chacun, individuellement, nous sommes profondément concernés par ce mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors essayons un peu de pénétrer ce mystère de l'amour, de la charité de Dieu pour nous. Nous aurions peut-être trop tendance, au cours de cette semaine sainte, de considérer surtout les aspects extérieurs de ces événements. La Sainte Cène, la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ, sa mise au tombeau, sa résurrection et bientôt son ascension. Mais au-delà de son corps visible qui frappe nos yeux, notre imagination, il y a cette créature divine, tout entière unie à la divinité, qui est son âme, l'âme de Jésus. N'aurions-nous pas trop tendance à oublier que Jésus avait une âme humaine et que c'est surtout par son âme que Jésus nous a rachetés? Son corps était l'instrument qui servait à son âme pour accomplir la rédemption, mais son âme aussi a été l'instrument de Dieu pour accomplir cette rédemption. Instrument privilégié, instrument extraordinaire, une âme comme la nôtre. Il a bien dit, anima mea tristises usquam mortem, mon âme, est triste jusqu'à la mort. Mon Dieu, je remets mon âme dans vos mains. Jésus avait donc une âme humaine. Imaginons ce que pouvait être cette âme, unie à la divinité, cette âme qui n'était pas une personne, qui était unie à la personne divine elle-même. Si nous admirons les merveilles que le bon Dieu a fait dans l'âme de la très sainte Vierge Marie, et certes, nous avons bien des raisons d'admirer cette âme de Marie remplie de toutes les vertus, remplie de l'Esprit Saint. Elle est pleine de grâce, nous le disons lorsque nous récitons le rosaire, pleine de grâce. Mais L'âme de Marie, à côté de l'âme de notre Seigneur, n'est qu'une ombre. Cette âme que Dieu s'est choisie pour la faire la sienne, c'est son âme humaine. Il l'a faite comme l'instrument privilégié, instrument extraordinaire. Car cette âme avait une intelligence, cette âme avait une volonté, une mémoire, une imagination, comme les nôtres. Et alors il a donné des dons extraordinaires à cette âme. Cette âme, dès l'instant de son existence, dans le sein de la Vierge Marie, possédait la vision béatifique, avait une science infinie, infinie, unie à Dieu lui-même, par cette grâce particulière que nous appelons cette grâce d'union, union à Dieu. L'âme ne subsistait que par Dieu. Il n'y avait pas une autre personne intermédiaire entre Dieu et cette âme. Non, cette âme était bien l'âme de Dieu, l'âme humaine de Dieu. Mystère, grand mystère, c'est vrai. Mais cependant, tous les actes, toutes les pensées, toutes les inspirations de cette âme étaient divines, étaient attribuées à Dieu lui-même. Dieu se les attribuait à lui-même. C'était vraiment son instrument privilégié. Imaginez alors ce que devait être cette âme, sa science, la lumière dont elle était inondée, car elle avait la vision béatifique. Pendant toute son existence, même pendant sa passion, l'âme de Jésus voyait Dieu, vivait en Dieu, était rayonnante de Dieu, rayonnante de la gloire de Dieu, immensément joyeuse, dans la joie et la paix de Dieu. Et pourtant, elle souffrait. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Oui, vraiment, grand mystère. Alors, saint Thomas nous explique que ce fut possible. L'âme peut en même temps, en effet, contempler Dieu, être dans la joie et la gloire de Dieu et en même temps souffrir dans la partie inférieure de son âme. Nous pouvons l'imaginer en pensant à ces âmes privilégiées qui ont eu des visions particulières, qui ont été entraînées dans le sein de Dieu pendant quelques instants, comme saint Paul qui disait « J'ai été entraîné au troisième ciel, avec mon corps ou sans mon corps, je ne le sais », dit saint Paul. Et pourtant, il avait son corps, il vivait encore dans son corps, il n'a pas été séparé de son corps. Et les âmes saintes qui ont de ces privilèges d'être entraînées pendant quelques instants dans le sein de la Trinité, plus près de Dieu, sans avoir pour autant la vision béatifique qu'avait l'âme de notre Seigneur, bien sûr, ce n'était qu'une approximation de Dieu. Eh bien, elle pouvait en même temps souffrir comme ont souffert Sainte Catherine de Sienne, comme a souffert Saint François d'Assise, les stigmates, signe de l'amour de Dieu, de ce grand amour que le bon Dieu avait pour ses âmes privilégiées. Il y avait donc en même temps une joie indicible d'être privilégié de Dieu, d'être approché davantage de la Trinité Sainte et en même temps de souffrir la passion de notre Seigneur Jésus-Christ dans leur corps, par les stigmates. Et ainsi en était-il de notre Seigneur à plus forte raison. Et pourtant, il voyait Dieu, il était en Dieu, bien plus que toutes ces âmes privilégiées, évidemment, puisque c'est par son âme que toutes les grâces nous sont données aussi. Donc, science infinie de Dieu, sainteté, dépassant la sainteté de toutes les âmes, de tous les anges réunis, puisque cette âme était unie à Dieu lui-même. Puissance de cette âme, toute puissance. Puissance qui faisait accomplir par Jésus les miracles. Il avait tous les charismes qu'on peut imaginer. Il pouvait arrêter le cours des événements, le cours des choses. Il avait dans ses mains la toute puissance, mais n'agissait évidemment que selon la volonté infinie de Dieu, puisque c'était Dieu qui l'agissait, c'était Dieu qui était responsable de ses actes. Mais cependant, nous savons, et il est de foi, qu'il y avait deux volontés en notre Seigneur Jésus-Christ, la volonté de Dieu et la volonté de son âme humaine. Mais ces volontés étaient toujours parfaitement accordées, parfaitement unies. Jésus ne pouvait rien faire qui ne fût contraire à la volonté de Dieu. Il était absolument impeccable, essentiellement impeccable. Et cette âme était aussi royale. avait des pouvoirs de roi, de royauté, particulièrement de royauté spirituelle, mais aussi de royauté temporelle par l'intermédiaire de sa royauté spirituelle. Royauté spirituelle sur les anges et sur toutes les âmes qui ont été créées. N'est-il pas dit en effet que Dieu illumine tout homme venant en ce monde et toute grâce nous vient de lui. Plenum gratiae de veritatis, dit saint Jean, est quo omnes nos accepimus, duquel nous avons tous reçu, tous, notre grâce vient de l'âme de Jésus. C'est lui qui l'a mérité, c'est lui qui nous a racheté. C'est lui qui a donné son corps, livré son corps aux ennemis pour qu'il soit crucifié, pour accomplir la rédemption. Et c'est lui aussi qui reprend son corps à la résurrection. Il fallait que cela vienne. La souffrance de Jésus ne pouvait pas durer. Il fallait qu'enfin il rentre dans sa gloire. Car c'est par miracle que la gloire de Jésus ne s'est pas manifestée constamment dans son corps. Étant donné que son âme était dans la gloire, il était normal que son corps le fût aussi, et ce n'est que par un miracle voulu par Jésus lui-même, voulu par Dieu lui-même, pour pouvoir souffrir, pour pouvoir donner son corps à la mort et à la souffrance pour nous racheter, que Dieu a voulu ainsi. Mais normalement, son corps aurait dû être toujours glorieux. Et c'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'après que son corps se fût séparé de son âme et qu'il ait voulu lui-même, qu'il a déposé son corps qui n'a pas été atteint du tout par la corruption, il a repris son corps, le rendant glorieux pour l'éternité. Certes, nous sommes devant un grand mystère. Mais si Dieu s'est servi de cette âme privilégiée et de ce corps pour nous racheter comme instrument de notre rédemption et qu'il les a privilégiés d'une manière extraordinaire, Dieu veut se servir de nous aussi, à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous ai donné l'exemple pour que vous suiviez mon exemple, a dit notre Seigneur à ses apôtres. Eh bien, nous aussi, le bon Dieu veut que nous soyons des instruments, et nous pouvons être des instruments, chacun à notre place, des instruments privilégiés de sa grâce pour nous convertir, pour imiter sa science, sa sainteté, sa puissance, toutes ses vertus et sa passion et sa croix et sa rédemption. Nous pouvons être ses instruments. Le bon Dieu le désire. Nous sommes le prolongement en quelque sorte de son humanité, de son âme et de son corps. Nous sommes son corps mystique et il demande que tant que nous sommes encore sur la voie pour aller à la gloire, eh bien que nous l'imitions aussi dans sa passion, dans sa, et pour sa rédemption. C'est un appel que le bon Dieu nous fait. Jérusalem, Jérusalem, convertere ad dominum deum tuum. Oui, et cela, il nous l'adresse à chacun de nous. Convertissez-vous à votre Dieu. Transformez-vous en lui par tous les sacrements. Je vous ai donné mon corps, je vous donne mon sang, je vous donne ma vie, afin que vous me ressembliez, afin que vous continuiez ma rédemption et qu'un jour vous entriez vous aussi dans ma gloire et dans la résurrection. Voilà l'appel que nous adresse notre Seigneur. Il faut, mes bien chers frères, que Jésus règne sur nous, qu'il règne sur nous, qu'il règne sur notre personne. Il en a le droit, il nous a rachetés par son sang. Nous lui appartenons désormais. Lavé dans son sang par le baptême, nous sommes à Jésus-Christ, nous lui appartenons, nous l'avons dit au cours de cette nuit pascale. Oui, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons que nous avons été rachetés par lui, par son sang, et nous renonçons au monde et nous nous attachons à lui. Que toutes ces paroles ne soient pas des paroles vaines, des paroles que nous redisons par habitude, mais que ce soit une réalité, que cela entre dans nos vies. Règne sur nous. Qu'il règne sur nos familles. Veillons à ce que la royauté spirituelle de cette âme de notre Seigneur soit vraiment inscrite dans nos familles par l'accomplissement de sa loi, par sa volonté, par l'accomplissement de sa volonté, et qu'il règne aussi sur nos cités. Prions Dieu en ces temps vraiment extraordinaires que nous vivons, où il semble qu'on ne veut plus que Jésus règne dans nos cités. Nous en avons eu un exemple ces derniers temps, au mois de février dernier, pour l'Italie. Exemple vraiment qui nous a profondément peinés, profondément bouleversés. L'Assemblée épiscopale d'Italie, des évêques italiens, le cardinal Casaroli, se félicitant de ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus sur l'Italie. Se félicitant, trouvant que désormais il était normal que l'Italie ne soit plus catholique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, plus catholique? C'est-à-dire que la royauté spirituelle de notre Seigneur Jésus-Christ ne s'étend plus à l'Italie. C'est une chose inconcevable. Toute l'Église, tous les papes, tous les pontifes ont souhaité le règne de notre Seigneur Jésus-Christ et ont voulu que notre Seigneur Jésus-Christ règne sur les personnes, sur les familles, sur les cités. C'est le but de l'Église, que votre règne arrive sur la terre comme au ciel. Nous le récitons dans le Pater Noster. Mettons-nous une limite à ce règne, disons-nous, nous voulons que le règne de notre Seigneur arrive sur nous, sur nos familles, mais pas sur nos cités, sur la terre comme au ciel. S'il y a un endroit où notre Seigneur règne souverainement, c'est bien au ciel. Alors s'il faut que sur la terre, notre Seigneur règne comme au ciel, il faut aussi que notre Seigneur règne partout. Ça doit être notre but, notre conviction, notre désir, notre volonté. Nous devons tout faire pour que notre Seigneur règne sur nos cités. Nous voyons bien les conséquences déplorables de l'athéisme de nos États, de nos cités. Et alors, ce qui s'est passé depuis 15 ans, depuis le Concile Vatican II, sous prétexte de cette fausse liberté religieuse, eh bien, on a laïcisé, c'est-à-dire on a donné à l'athéisme tous les États catholiques. Et peut-être l'Italie était le dernier État qui restait encore catholique officiellement, pour lequel la religion catholique était la seule religion reconnue publiquement. Et voilà que maintenant, cet État ne l'est plus, et par la volonté même du Saint-Siège. Chose incompréhensible. Nous sommes dans des temps douloureux, mes bien chers frères, douloureux. Nous devons vraiment prier, nous devons nous sacrifier, nous devons offrir nos vies à notre Seigneur Jésus-Christ pour réparer ces outrages qui lui sont faits, car c'est un outrage qu'on impose à l'Église, l'athéisme, qu'un État vienne dire à l'Église, je ne veux plus que vous vous occupiez de nous, laissez-nous, nous ne voulons plus que notre Seigneur règne sur nous. L'Église le subit, l'Église le tolère, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Elle se trouve dans un cas de force majeure. Mais que l'Église le désire et se félicite de ce que notre Seigneur Jésus-Christ ne règne plus dans la cité, alors ça c'est le comble de l'imposture. Jamais on n'a entendu chose pareille dans la Sainte Église, jamais. Alors nous devons rester fermes sur les principes, fermes sur le règne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a conquis nos âmes par sa croix. Nous lui appartenons, tous les hommes lui appartiennent, toute l'humanité lui appartient. C'est cela que nous devons croire et que nous devons faire en sorte dans nos vies de faire régner notre Seigneur Jésus-Christ. Bien, frères et frères, demandons aujourd'hui spécialement à notre bonne mère du ciel qu'elle règne avec son Fils. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Hein, c'est vrai.